Nous allons lire dans la parole de Dieu au psaume 130, versets 1 à 4. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Et puis, dans Michée 7, versets 18 à 20, quel est le Dieu semblable à toi? Qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient. Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Oui, tu témoigneras de la fidélité au peuple de Jacob. Tu manifesteras ta grâce aux enfants d'Abraham, comme tu l'as promis, au temps ancien, à nos ancêtres.
Quel Dieu est semblable à toi, éternel Dieu? Tu es le seul, l'unique, le vivant. Si nous sommes là ce matin, parce que c'est parce que tu nous as créés, c'est parce que tu as voulu de nous, dans ta famille. Tu nous as rachetés du mal. Tu as effacé notre péché. Tu nous as accueillis dans ton royaume éternel. Et ce matin, en prenant le pain et le vin, tout à nouveau nous affirmons notre désir de te suivre, d'aligner notre vie selon ce que tu nous dis. Nous désirons être conduits par ton esprit, marcher d'un même pas avec toi. Loué sois-tu de ce que tu as tout accompli en Jésus. Amen.
C'est le texte que j'aimerais partager avec vous ce matin pour la prédication. C'est un texte qui me touche beaucoup parce qu'il me révèle le cœur de ce qui a fait le ministère de l'apôtre Paul. Et je trouve que l'apôtre Paul est un homme, je pense que vous le pensez tous aussi comme moi, qui sort du commun. Un homme qui avait une passion pour Dieu, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Et je trouve fascinant de pouvoir se poser cette question, mais qu'est-ce qui l'a animé? Qu'est-ce qui fait qu'il a eu une telle passion? Alors je vous invite à lire dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 11 à 21. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, parce que par elle tu parles encore aujourd'hui. Merci parce que par ta parole tu nous révèles ton cœur. Merci parce que par ta parole aussi tu peux changer nos vies, les transformer. Merci parce que par ta parole tu nous rencontres. Alors c'est ce que j'aimerais te demander, c'est que ce miracle encore une fois puisse avoir lieu ce matin, comme chaque dimanche, comme chaque fois qu'elle est ouverte. Et que chacun ici présent puisse ce matin repartir avec cette assurance que tu es un Dieu fidèle, mais aussi que tu l'appelles, que tu l'aimes et que tu as une vocation à lui adresser. Et que chacun puisse aussi ici ce matin entrer encore plus avant dans cette vocation que tu as pour lui. Nous te le demandons à cause de ton nom. Amen. Alors voilà ce qu'il est dit dans cette seconde épître, voilà ce que dit l'apôtre Paul. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, et devant Dieu, nous sommes pleinement découverts. J'espère être aussi pleinement découvert dans vos consciences. » Nous ne nous recommandons pas à nouveau auprès de vous, mais nous voulons vous fournir une occasion d'être fiers de nous afin que vous ayez de quoi répondre à ceux dont les motifs de fierté sont tout de façade et non de fond. Si nous avons été hors de sens, c'était pour Dieu. Si nous sommes sensés, c'est pour vous. L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi désormais, ne connaissons-nous donc plus personne à la manière humaine? Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leur faute au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade ou ambassadeurs, et par nous, c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. Alors, ce matin, comme déroulement, j'aimerais vous inviter à réfléchir. Alors, à cette première affirmation, c'est pas juste. C'est pas juste qu'il y ait tant d'hommes et de femmes qui ne puissent pas entendre cette affirmation extraordinaire. Dieu nous veut réconcilier avec lui. Mais alors, pour entrer dans cette dynamique, il nous faut comprendre l'enjeu. Je suis obligé de me tourner parce que j'ai pas réussi à récupérer mes notes. Vous m'en voulez pas, hein. Vous m'entendez bien quand même. Vous êtes sympa. Quelle est la motivation de cet homme extraordinaire qu'est Paul? Et puis, quel est notre rôle? Et puis, finalement, comment entrer dans ce rôle que Dieu nous adresse? Puis, quelques mots de conclusion, parce que je trouve que ça fait toujours mieux d'avoir une conclusion. Alors, l'enjeu est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous connaissez les cimetières en France de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est, quand vous entrez dans ces lieux, c'est juste terrible. Vous voyez ces croix qui sont à perte de vue, et chacune de ces croix dit la mort de quelqu'un qui est venu pour libérer cette terre de France. L'apôtre Paul, quand il se balade dans les rues des villes où il passe, c'est ce qu'il voit. Pour lui, l'enjeu, c'est pas un enjeu de confort, mais la découverte du Christ, pour lui, lui a fait prendre conscience que si un seul est mort, tous sont morts. Il a compris que l'enjeu spirituel, c'est pas qu'on vive mieux, que la vie soit plus agréable, plus performante, que plus confortable. Mais il y a un enjeu qui est un enjeu de vie et de mort. Et la proclamation de l'évangile n'est pas une proclamation pour favoriser la vie, pour faire que les homosexuels soient plus gentils, que les voleurs arrêtent de voler, que... Il y a des homosexuels très gentils en plus, donc vous me comprenez. La proclamation de l'évangile, c'est pas ça d'abord. Et vous savez, le drame, moi, quand je me balade dans les rues, les gens, ils connaissent plus Jésus, mais ils connaissent les églises et les gens qui vont dans les églises. Et ils me disent, à cause d'eux, je ne vais pas. Ils m'accusent. Ils m'enferment. Je n'ai pas le droit d'être libre, quoi. Moi, je veux juste vivre. Mais quand je vais dans leur truc, alors c'est toujours des églises catholiques, heureusement. Mais la musique, elle est pénible. Faut se lever, faut s'asseoir. Il y a un gars, il cause de trucs qui ne nous intéressent pas. Enfin... Alors que l'enjeu, c'est un enjeu de mort et de vie. Et ça, ils ne l'ont pas compris quand ils rentrent dans nos lieux. Ils se disent, c'est bizarre ce qu'ils font. L'apôtre Paul, c'est ça qui lui a donné un tel impact dans son temps. C'est que sa rencontre avec Jésus et la découverte que Jésus était mort, ce qu'on a célébré par la scène, lui a fait prendre conscience que tous ceux qui côtoyaient sans le Christ, ils sont morts. Et ils sont vraiment morts. Séparés de Dieu. Alors, les motivations pour aller vers les gens, pour Paul, ça, moi j'ai souvent le sentiment que c'est ça chez les chrétiens, c'est que la motivation, il faut quelqu'un comme Paul Robert qui a une grande voix, qui résonne, puis qui de temps en temps vous dit « il y en a marre quoi, faut aller rejoindre les gens du dehors », et puis tout le monde sent un peu coupable, on baisse la tête, on attend que ça passe... On va faire une petite opération d'évangélisation, puis après on retourne à nos pénates. Puis c'était sympa, on a vécu quelque chose de chouette, et puis c'est un peu ça souvent nos motivations. Il y a besoin que quelqu'un nous botte le train, et puis que ça... Mais vous savez, l'apôtre Paul, c'était pas sa motivation. Et ça m'a énormément libéré. Ça m'a enthousiasmé même de découvrir que la motivation, c'était pas la peur, hein, mais c'était l'amour du Christ nous étreint. Je sais pas comment vous imaginez l'apôtre Paul, mais moi je l'imagine comme un petit gars solide. Puis quand il vous en colle une, vous êtes juste mal. Vous voyez, c'est pas un gars qui va vous passer de la pommade, qui va être gentil, qui est de l'émotionnel. C'est pas un tendre Paul, c'est un solide. Puis certainement quand il était pas content avec vous, il devait vous dire ça, mais entre quatre yeux, mais vous le saviez. Et cet homme, il écrit à ses amis en leur disant « Moi, j'ai compris un truc. Et ce que j'ai compris maintenant, ça fait que dans mon cœur, je me sens étreint par l'amour de Dieu. Je suis touché, quoi. Mais pas simplement touché, il y a quelque chose d'hyper profond en moi qui... L'amour du Christ m'étreint. Ça m'émeut encore aujourd'hui. Vous savez, il est pas au début de son ministère, là. Et après toutes ces années, il est encore capable de dire « L'amour du Christ m'étreint ». Et puis, il a découvert que ça avait des conséquences, et que ces conséquences étaient ne plus vivre pour soi, mais pour celui qui avait donné sa vie. Et c'est ce qui a modifié, qui a chamboulé toute sa vie, toute sa manière d'être. Mais c'est ce qui a modifié, qui a chamboulé tout son monde aussi. Et si aujourd'hui je suis là, c'est parce que cet homme-là a été tellement étreint par cet amour du Christ qu'il n'a plus vécu pour lui, et puis qu'il a partagé ce qu'il avait découvert, et puis qu'aujourd'hui je peux l'entendre et l'accueillir. Alors, c'est ça les motivations que nous avons et que nous essayons d'avoir à Pau. Alors, quel est notre rôle? Vous savez, à Poitiers, pardon, je dis à Pau, mais à Poitiers, on a le privilège et en même temps le lourd fardeau qu'en 732, après Jésus-Christ, enfin un petit peu d'histoire, Charles Martel a arrêté les Sarrasins, les musulmans. Si vous allez en Afrique aujourd'hui, dans les pays musulmans, eh ben on parle de Poitiers. On en parle presque plus que de Paris. Et d'ailleurs, quand ils ont commencé à construire une mosquée à Poitiers, ils voulaient que son muezzin soit plus haut que toutes les cloches, là, les clochers des églises. Comme pour dire une revanche. Et vous savez, quand vous entendez ça, les croisades, c'était pas mal quand même, hein, à la base. Il y a plein de gens qui pensent ça, quoi. Ils se disent... Oh. Alors, je sais que c'est pas votre cas, mais en France, on entend un peu ça parce qu'il y a un déséquilibre au niveau population. Puis vous savez, quand une population défavorisée, elle fait plus de bêtises que les autres, puis on a tendance à la stigmatiser. Puis malheureusement, c'est souvent les musulmans. Puis bon, on va pas rentrer là-dedans, mais ce qui fait que souvent, on se dit que notre rôle, c'est de partir en guerre. Puis proclamer la victoire de Christ, proclamer, ouais. Puis quand vous allez comme ça dans les rues, les gens, ils vous regardent, puis ils se disent, ça, pas, non. Nous, on aspire à la paix. Nous, on aspire à la vie. Nous, on aspire à la joie. Et vous savez ce que c'est, ça? C'est les fruits de l'Esprit-Saint. Alors, le rôle qui nous est confié, c'est pas de partir en guerre. Mais j'aime tellement ça. Vous avez reconnu ce monsieur? C'est l'ambassadeur du Canada. Notre job, c'est d'être ambassadeur. On est représentant d'un pays qui est notre pays. S'il y a quelqu'un qui veut faire du business avec le royaume des cieux, il faut qu'il passe vers nous. C'est un ambassadeur, ça sert à ça. Et s'il veut un visa pour y aller, il faut qu'il vienne nous voir. C'est extraordinaire ce que Dieu nous a confié. Il nous demande pas de partir en guerre, il nous demande de représenter son royaume, de représenter qui il est, de représenter le pays auquel nous aspirons. C'est ce que Paul a découvert et c'est ça l'importance de son job. Et puis, il trouve ça tellement interpellant et tellement important qu'en tant qu'ambassadeur, son souci c'est de plaider. Alors, c'est pas vraiment comme les avocats, c'est encore plus fort que ça. C'est il dit, nous vous en supplions. J'ai envie de lui dire, Paul, calme-toi, quoi. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Ils ont qu'à, tant pis, quoi. Mais c'est pas ça qu'il nous dit. Il nous dit qu'il faut plaider auprès de chacun d'entre eux, qu'il faut pas se décourager. Vous savez, faire de l'implantation, c'est quelque chose de difficile parce que on touche plein de gens qui nous disent « vous êtes merveilleux ». Ceux qui ne nous trouvent pas merveilleux, ils ne nous adressent plus la parole. C'est aussi ça. Hein. Des fois, il y a des gens, quand vous leur dites « Jésus », ils sont un peu... Puis ils ont peur de vous après. Puis là, on a un couple qui est arrivé et leurs voisins ne leur parlent plus parce qu'ils ont découvert que c'était chrétien. Puis ils avaient peur que leurs enfants soient endoctrinés, quoi. Vous voyez l'image qu'il porte, quoi. Alors, c'est sûr que quand on plaide, quand on supplie, quand... Des fois, ça fait peur. Mais tous les autres qui sont d'accord de faire un bout de chemin avec nous et avec qui on a le privilège de pouvoir faire un bout de chemin, qui sont d'accord que nous fassions un bout de chemin avec eux, ben malheureusement, ils viennent pas beaucoup le dimanche au culte. L'étude biblique, on va plutôt la faire chez eux que chez nous. On va même dans un bistrot pour ça. On essaye d'aller où ils vont. Un de mes meilleurs amis, il est fossoyeur, je vais boire le café régulièrement au cimetière. Puis de temps en temps, on visite. C'est, vous voyez, alors, comment vous voulez construire une communauté comme ça, hein? C'est compliqué, quoi. Parce que, par contre, pour tout ce qui est bricolage, ils sont super, ils sont toujours là. Mais pour venir faire ce que nous, on a l'habitude et qu'il faut faire quand on est une église, j'ai de la peine. Mais ce qu'ils me disent, c'est que chez vous, il y a quelque chose d'autre. Ce qu'ils nous disent, c'est, j'ai vu, il y en a un, il nous a envoyé sa maman, j'ai vu la vie de mon fils changer. Ça me touche, ça. J'aimerais juste savoir. Ça ne m'intéresse pas vraiment, mais ce qui m'intéresse, c'est que la vie de mon fils, elle a changé. Je ne peux pas dire autre chose. Mais c'est merveilleux, ça. Après, on n'est toujours pas une église de 50 membres. Hein. On est entre 19 et 30 au culte. On a une moyenne de 25, 24, 80. Alors on dit ça parce que je note exactement, parce que ça m'encourage, parce que sinon, je me dis, on n'est plus que 10, quoi, voyez. Mais, voilà, ça a de la peine. Puis, ils font jamais ce qu'on veut qu'ils fassent. Et puis, le message que le Christ nous confie, c'est un message de réconciliation. Alors, vous savez, j'ai passé 10 ans à visiter les églises parce qu'un de mes travaux à côté de mon ministère, c'était d'aller dans les petites églises et puis d'essayer de les rebooster, de les encourager, etc. Et le nombre de fois où je suis arrivé dans des églises et où je pouvais dire le problème, c'est pas les gens du dehors qui sont fermés, mais c'est que vous chamaillez tellement dedans. Alors, comment est-ce qu'on peut être porteur d'une parole de réconciliation quand on se chamaille dedans, quoi? C'est difficile, hein. Mais c'est tellement difficile de vivre ensemble. Moi, je comprends, hein. Moi, il y en a aussi qui m'énervent, des fois. Mais le message central de l'Évangile, c'est, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et ça me touche tellement encore aujourd'hui. De me dire, mais voilà ce que Jésus me confie. Voilà ce que Jésus nous confie. Alors, comment être porteur de cette parole de réconciliation? Je ne sais pas si vous connaissez le film « Mon meilleur ami ». Si vous ne le connaissez pas, ça vaut la peine. C'est une belle description de ce qu'est l'amitié, de la difficulté de l'amitié, puis du fait qu'on a tendance à s'utiliser les uns les autres. Je trouve ça très beau. Mais moi, je crois profondément qu'on ne peut pas être porteur d'une parole de réconciliation si on n'arrive pas à développer des vraies relations d'amitié avec ceux qui nous entourent. Et en fait, je suis dans tous ces trucs de développement, donc on participe à des congrès, à des machins un peu partout en Europe. Et une des choses dans les statistiques qui ressort sur le développement, c'est que quand les gens deviennent chrétiens, après 2 ans, ils se sont coupés de toutes leurs relations avec des gens non chrétiens. Alors, comment avoir des amitiés, quoi? Alors, vous me direz, mais c'est difficile d'être ami avec les gens dans l'église, ça prend déjà du temps, d'aller à l'étude biblique, d'aller au culte, de travailler, j'ai pas de bonne solution. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on arrête ça. Si on veut être en prise avec ceux qui nous entourent, il nous faut prendre du temps pour eux. Alors, je sais, le temps, c'est de l'argent, je sais, les Africains nous disent, vous avez la montre, nous, on a le temps, alors allons tous en Afrique. Hein. Mais il y a quelque chose à repenser, il y a quelque chose à redécouvrir. Mais est-ce qu'on arrive encore à tisser des relations d'amitié authentiques, hein, avec des gens qui peut-être ne viendront jamais à l'église, avec des gens qui peut-être nous diront, votre étude biblique, tu sais, moi, j'aime pas lire. Faut juste leur mettre des images. Puis, ils regarderont une fois, mais il n'y a pas assez d'action dans les films sur Jésus, vous savez. Donc, j'en sais rien comment vous y prendrez. Mais, tissez des vrais liens d'amitié. Tissez des vraies relations. Et puis c'est ça, c'est de la créativité. Pour être porteur de cette parole de réconciliation, c'est oser ouvrir des chemins nouveaux. Alors, vous me direz, c'est facile, toi, t'es sur un petit truc, ça démarre, tu peux faire ce que tu veux. Alors, c'est presque vrai. C'est toujours plus compliqué qu'on ne l'imagine, puis c'est toujours mieux dans le champ d'à côté. Mais la créativité, je crois qu'il nous faut retrouver des chemins pour rejoindre les gens d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez réalisé que notre manière de vivre l'Église date du réveil? Ça date de 150 ans. Alors, je vois qu'il y a Henri Bachet au fond. Je sais qu'il vous embête avec ça, mais il y a quelque chose de vrai là, qui nous faut repenser, qui nous faut... Puis j'ai pas de bonne solution, il n'y a pas un truc. Un des hommes que j'aime le plus, c'est un sociologue, Frédéric de Conin, au niveau des écrits, etc., je le trouve assez passionnant. Et lui disait sa redécouverte par les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Je sais pas si vous êtes au courant, en France, à l'époque, il y avait du temps de... C'est vieux, c'est très très vieux. Et il y avait des chemins de pèlerinage, comme ça, les gens faisaient ça pour gagner leur salut, gagner quelques indulgences. Ce qui a permis de construire des très beaux bâtiments, je tiens à le dire. Non, c'est une parenthèse. Mais aujourd'hui, ces chemins sont investis par une multitude de gens qui ne vont pas à l'église, mais qui ont une quête spirituelle. Et si vous allez juste marcher sur ces chemins, mais ils y passent des semaines, hein, vous allez être surpris. Ils seront prêts à entendre, ils seront prêts à... Alors vous me direz, ouais, mais avec ça, vous ne faites pas tourner une église. Je suis d'accord. Mais ça veut quand même dire qu'il faut se risquer à repenser les choses, à trouver des chemins pour rejoindre les gens d'aujourd'hui. Mais ils ne sont pas si fermés que ça à une parole de réconciliation et de vie. Même bien au contraire. Il y a soif de réconciliation dans notre monde. Alors, en conclusion, voilà Poitiers. C'est une superbe ville que vous dire venez et voyez. Très sympa. Pour le soleil, je ne peux pas m'engager, mais c'est un texte qui nous adresse à tous un appel. Notre grand patron, il a besoin d'une multitude d'ambassadeurs. Et c'est chacun d'entre vous, c'est chacun d'entre nous. C'est cet appel que Paul nous adresse encore ce matin. Soyez en ambassade pour celui dont vous avez compris que s'il est mort, tous sont morts. Et ne vivez plus pour vous, mais vivez pour lui. Et allez auprès de ceux qui vous entourent pour être porteur d'une parole de réconciliation avec Dieu. Et plaidez auprès d'eux. Dites-leur, je vous en supplie, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors ce matin, c'est aussi l'occasion de vous dire un grand merci parce que vous nous accueillez, parce que depuis 89, où on a fait notre stage pastoral au milieu de vous, ben les choses ont peu changé au niveau de votre fidélité. Et ça nous touche énormément avec Annette, de revoir que vous êtes là et que vous êtes fidèle dans le service que Dieu vous a confié. Vous avez grandi, vous avez fait des super choses. Ça encourage ma foi. Merci. Et puis en même temps, merci parce que vous êtes d'accord d'être à nos côtés, puis de prier pour nous, puis venir nous voir peut-être, manger un peu. Bon, ce sera du chou si vous venez vraiment pour du typique à Poitiers. Par contre, Pinot des Charentes, Cognac, ça on retrouve, c'est aussi du local. Un grand merci. Puis j'aimerais vous laisser un encouragement, c'est que Dieu nous attend et dès qu'on se met en route, on vit des choses extraordinaires. Alors, vous êtes en route, mais n'hésitez pas, si vous avez 5 vitesses, à passer la 6e. Vous savez, sur les Alfa Romeo, il y a une 6e vitesse, mais je crois même sur les Renault, mais une 6e vitesse. Ça permet de consommer moins et d'aller plus vite, parce que ce monde se meurt. Parce qu'on est plus près du retour de Christ aujourd'hui qu'hier. Alors, le Christ nous envoie encore aujourd'hui pour plaider en son nom, je vous en supplie. Au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen.